Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez l'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, libération du journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi, interview pour annoncer la soirée science et astronomie, les yeux au ciel. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, un reportage chez Espero Bretagne qui vient de lancer un atelier textile pas comme les autres. Et puis, recommandation, la journée impopulaire de la cloche Bretagne. Bienvenue dans l'Arène. Et on commence comme tous les jours avec l'info du jour que j'ai retenu pour vous. Aujourd'hui, on parle de la libération du journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi. Ça a un lien avec la Bretagne puisque depuis sa venue à Douarnenez en 2016 pour un festival de cinéma, bien cette ville était un petit peu devenue son port d'attache à ce journaliste. On remonte en arrière, le 5 janvier dernier, Mortaza, donc journaliste franco-afghan réfugié en France, fait le trajet jusqu'en Afghanistan pour un reportage. Il est arrêté le 7 janvier à Kaboul alors qu'il s'apprêtait à récupérer son accréditation presse pour mener son travail. Ce que lui reprochent les services secrets afghans, des actes d'espionnage, de soutien illégal à des étrangers et puis d'aide au franchissement de frontières vers l'étranger. Et donc, après 284 jours de détention, la justice talibane a finalement ordonné la libération de Mortaza Behboudi. Durant cette période de 9 mois, de nombreux comités de soutien s'étaient mobilisés, particulièrement à Douarnenez en Finistère, tout comme le Club de la Presse de Bretagne qu'on avait d'ailleurs reçu au mois de mai pour une soirée de soutien, ou encore Reporters sans frontières qui a annoncé la bonne nouvelle de sa libération hier, mercredi 18 octobre. Allez, après cette info du jour, c'est le moment d'une interview. David Cara et Erwan Carvou, bonjour.
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 Je vous présente, alors David Cara, vous êtes astrophotographe, et Erwan Carvou, vous êtes physicien. Ensemble, on va annoncer Les yeux au ciel, une soirée science et astronomie qui se déroule au Diapason sur le campus de l'Université de Rennes, et c'est la semaine prochaine, mercredi 25 octobre. On commence par dire que c'est la deuxième édition de cet événement, c'est bien ça ?
Absolument.
Qui se déroule cette année dans le cadre de l'année de la physique 2023-2024. Comment est-ce que tous les deux vous vous êtes retrouvés autour de cette idée de soirée science et astronomie ?
Alors au départ, en fait, on s'est rencontrés lors d'une soirée grand public sur Vera Rubin.
Qu'est-ce que c'est ?
Vera Rubin,
qui est-ce ?
Voilà, c'est une des premières astronomes qui a fait des découvertes très intéressantes, entre autres sur l'étude des rotations des galaxies. C'était les premières études qui ont permis de montrer qu'il y aurait éventuellement de la matière qu'on ne connaît pas, ce que maintenant on appelle la matière noire.
Vous vous êtes rencontré à ce moment-là ?
Oui, il y avait un spectacle ensuite... au Diapason, effectivement, c'était un spectacle de danse et théâtre autour de Vera Rubin, et puis il y avait une rencontre avec le public après, où Erwan plus Ludovic, d'ailleurs un astrophysicien qui sera à la soirée, et Yveline, également astrophysicienne, pouvait parler avec le public, et où moi, en tant que amateur et à travers l'astrophotographie, je servais un peu d'intermédiaire parfois entre des gens qui sont pas forcément scientifiques et les scientifiques qui ont parfois aussi besoin qu'on les aide à vulgariser un petit peu le propos. On s'est rencontrés à ce moment-là. Il y a eu une idée d'expo photo qui a germé quand j'avais montré un peu ce qu'on faisait aux équipes du Diapason. Et puis on a parlé avec Erwan, on a parlé avec eux, et on s'est dit pourquoi ne pas aller au-delà de simplement l'expo photo, d'aller fouiller un peu plus loin. Donc l'année dernière, on avait diffusé un documentaire sur les découvreurs d'exoplanètes, notamment sur Michel Mayor. Et il y avait une rencontre derrière avec un garçon qui lui découvre des nébuleuses. Il y avait également Yveline Le Breton, donc l'astrophysicienne qui était là, Erwan. Et on avait fait venir un planétarium itinérant qui est là encore cette année. Et il y avait des stands sur lesquels les doctorants venaient montrer un peu leurs recherches, leurs outils de recherche, et expliquer ce sur quoi ils travaillaient. Il y avait même un stand de météorites. Et on a reproduit ce schéma cette année, sachant qu'on va parler spécifiquement du système solaire.
On va arriver au détail du programme. Juste, vous avez parlé d'exoplanètes. Pour ceux qui, comme moi, ne savent pas ce que c'est, ce sont des planètes situées en dehors du système solaire. On va continuer à vous présenter un petit peu. Vous avez parlé de photographie, David. Il faut expliquer que vous avez eu une autre vie d'auteur à succès. Vous êtes rennais. Vous avez aujourd'hui laissé l'écriture, en tout cas sur une partie fiction, pour l'astrophotographie, un domaine que je ne connaissais pas. Vous êtes en fait un collectif qui s'appelle Astrofleet, à scruter le ciel et à prendre des photographies, mais assez incroyables.
Oui, on a créé effectivement l'association Astrofleet il y a quelques années de ça, où nous sommes 9 astrophotographes répartis un peu à travers la France et où on mutualise en fait les photos qu'on peut faire avec nos télescopes pour pouvoir obtenir plus de détails sur certains objets qui sont des nébuleuses planétaires, qui peuvent être des rémanents de supernova, donc ce qui reste d'une étoile qui a explosé, des amas d'étoiles, enfin voilà, il y a tout un tas, ou des nébuleuses sombres, enfin il y a tout un tas d'objets dans le ciel qu'on peut photographier à l'aide d'un télescope et de caméras assez puissantes. Et nous, notre objectif à travers ça, c'était d'amener le public à voir ce qu'il y a dans le ciel, ce que finalement la photo des piliers de la création de Hubble en 1995 avait déclenché, puisque ça a vraiment permis aux gens de découvrir qu'il y avait des merveilles. Il n'y a pas besoin forcément de fiction, parfois la réalité est merveilleuse. Et donc on a installé un télescope en Espagne en plus de nos télescopes à nous, donc sous des cieux peu pollués, avec un nombre de nuits bien plus important dégagé que ce qu'on a en Bretagne, puisqu'on doit avoir à peu près 200 nuits dégagées, ce qui nous permet de photographier des objets difficiles à voir ou à localiser, et ce qui nous a permis d'ailleurs cette année de découvrir une nébuleuse.
Mais justement, on peut en dire un mot. Début 2023, vous avez réalisé et publié une photo d'une nébuleuse qui n'avait jamais été observée. Son nom, STDR-155, ça c'est dans la version simplifiée. Est-ce qu'on peut décrire la photo et puis expliquer comment un tel cliché est possible? C'est à une distance presque inconcevable.
Alors, inconcevable, c'est relativement proche, bizarrement. Ça se trouve à environ 7000 années-lumière. Donc, c'est une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc, pour éviter de multiplier les zéros...
Moi, ça me paraît beaucoup quand même, déjà.
C'est beaucoup, mais sur un univers dont certaines distances atteignent les 13-14 milliards d'années-lumière, ça représente pas grand-chose.
C'est la banlieue proche.
Ah ouais, c'est la porte à côté. Et donc pour faire une photo comme ça, en fait, il faut poser, donc il faut que votre télescope suive une zone du ciel toutes les nuits, pendant un nombre de nuits considérable, puisqu'on doit avoir 89 heures de pause pour réussir à sortir la photo. Et en fait, ce que l'on voit sur cette image, c'est donc ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, qui est très mal nommée, mais à l'époque, ça a été nommé avant qu'on ait les moyens techniques actuels. C'est en gros la mort d'un soleil. Voilà, c'est-à-dire qu'une étoile qui meurt, notre soleil, avant de mourir par exemple, va devenir une géante rouge, il va expulser ses couches externes dans l'espace pour lui réduire en taille et devenir ce qu'on appelle une naine blanche, et on va voir autour des nuages de gaz, donc en l'occurrence c'est de l'hydrogène et de l'oxygène, ce qui fait qu'on a cette espèce de boule bleue un peu fantomatique cernée par un très grand nuage rouge, et ça donne de très très belles images, mais ça nous permet aussi d'avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler le système solaire à la fin du Soleil, sachant que ce sera une très mauvaise nouvelle pour Mercure, Vénus et la Terre.
Vous avez cité cette image des piliers de la création que j'ai sous les yeux, oui. Qui date donc de 1995, prise grâce à un télescope spatial que vous avez cité qui s'appelle Hubble. Comment on peut la décrire, cette image? Elle a l'air complètement surnaturelle aussi.
C'est ce qu'on appelle une pouponnière d'étoiles. Ce sont d'immenses nuages de gaz. Alors chaque pilier mesure environ 4,5 années-lumière. Donc ça veut dire que chaque pilier est bien plus grand que le système solaire, à peu près 4 fois. Et en fait, ces nuages de gaz vont s'effondrer sur eux-mêmes sous l'effet de la gravité et vont déboucher sur la formation de nouvelles étoiles. Et c'est vrai que ça donne quelque chose d'absolument magique, quoi. Entre les gaz qui sont éclairés par les étoiles qui se trouvent derrière, donnent des halos qui sont merveilleux.
Bon, le plus simple, c'est que les auditeurs aillent découvrir cette image en ligne. On peut tout de suite dire que l'événement du 25 octobre, ce sera donc l'occasion de découvrir des photos du collectif Astrofleet, dont vous faites partie, David Cara. On peut déjà la voir, cette exposition, au Diapason?
Alors, c'est déjà exposé depuis lundi dernier. Ça sera exposé jusqu'à début décembre. Là, en l'occurrence, il n'y a pas que des photos d'Astrofleet. On a collaboré avec 2 autres astrophotographes. Un qui est vraiment peut-être la grande référence de l'astrophotographie mondiale, qui s'appelle Thierry Legault, qui est français, qui a notamment réalisé la première photo depuis la Terre d'une sortie extravéhiculaire d'un astronaute sur la station spatiale internationale. Donc une photo qui a fait le tour du monde, qui lui a valu d'être invité à la NASA et de rencontrer l'astronaute en question. Enfin, sa photo a eu un impact fou. Thierry a écrit un ouvrage de référence qui s'appelle L'astrophotographie, qui est notre bible à tous. C'est un garçon absolument adorable et avec un très grand talent, et qui a accepté de nous passer quelques photos, notamment de la Lune ou d'éclipses de soleil, voire un transit de l'ISS devant le soleil, qui est tout à fait merveilleux. Et puis Jean-Paul Auger, qui lui est un spécialiste de la photo planétaire, parce que nous, au sein d'Astroflit, on n'en fait pas trop, mais qui nous permet d'avoir de très très belles photos de Jupiter et de Saturne.
Je me tourne vers Erwan Carvou. Vous êtes, vous, physicien à l'Université de Rennes, au sein de l'Institut de physique de Rennes. Votre truc, votre domaine de recherche, c'est plutôt le contact électrique. Déjà, il faut dire ce que c'est.
Alors, c'est tout bêtement, j'étudie comment les prises de courant peuvent réagir à certaines sollicitations externes. Donc, pour faire simple, si le courant ne passe plus, on fait appel à moi et j'essaye de comprendre ce qui se passe. Donc, l'électrification étant de plus en plus présente, les voitures électriques, vous connaissez, donc il faut pouvoir les brancher sans problème.
Alors, donc ça, c'est votre domaine de recherche. Pourtant, là, on parle ensemble de science et d'astronomie. C'est plutôt un intérêt à côté de votre travail d'enseignant-chercheur, même si vous avez donc un regard de chercheur sur ce champ-là.
Oui, voilà, tout à fait. Comme beaucoup, ça me passionne, surtout dans la perspective de se demander où on est dans l'univers. Donc, si on regarde, par exemple, des cartes de l'univers, on voit qu'on est quasi insignifiant sur notre petite planète. Mais aussi, ça permet de s'interroger sur d'où on vient. Donc il y a tout l'aspect cosmologique aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire comment l'univers s'est formé, comment les constituants de l'univers s'est formé, et aussi comment il finira. Donc ça, je ne suis pas spécialiste dans ces domaines, mais j'ai mon regard de physicien qui me permet d'essayer au mieux de comprendre et de m'interroger dessus.
On arrive au programme de la journée de mercredi, donc sur cet événement qui s'appelle Les yeux au ciel. Rendez-vous pour le public au diapason de 19h à minuit. Il se passera aussi des choses en après-midi, on va y arriver. C'est une soirée qui est gratuite, qui affiche souvent complet, donc il faut rapidement réserver sa place pour les différentes choses qui sont proposées. Peut-être on reste avec vous, Erwan, pour parler des chercheurs, étudiants, associations qui seront présents sur des stands, parce qu'a priori, le ciel est un espace qui fascine, y compris en Bretagne. Donc il y a plein de gens qui se regroupent pour partager leur intérêt.
Oui, voilà, il y a un laboratoire qui est spécialisé dans l'étude des réactions chimiques, de la chimie dans les nuages interstellaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas de télescope en Bretagne, puisqu'il y a beaucoup de nuages, et assez souvent. Mais ils ont des appareils, d'ailleurs, que le public pourra visiter, qui permettent de reproduire les conditions de l'espace et des nuages stellaires.
Ça, c'est des chercheurs en astrophysique, c'est ça ?
Voilà, c'est la visite des laboratoires.
Laboratoire d'astrophysique qui se visite donc mercredi 25 octobre à 17h et 18h au départ du diapason. Je note aussi la présence du club d'astronomie des étudiants de l'ENSAT du côté de Lannion en Côte d'Armor. Également des paléoclimatologues qui seront présents et le club Grain de Ciel.
Je crois que ce sont eux qui amènent les échantillons d'astéroïdes cette année.
Ah oui.
C'est ce que j'ai lu.
Ouais.
Une petite association d'astronomie qui sévit à Pornichet.
Ouais, voilà.
Donc voilà pour les gens qu'on va pouvoir rencontrer. Le temps fort de cette soirée, ce sera sans doute la projection débat d'un documentaire de la BBC dont le titre est Le Soleil, notre étoile. Ça aura lieu à quelle heure et qu'est-ce qu'on va y découvrir ?
On commence à 19h, les projections, les interactions avec le public. Et après, on commence là les quiz et il y aura les visites des différents stands pour les spectateurs.
Qu'est-ce qu'il y a de plus fou à savoir sur le Soleil, pour ceux qui connaissent rien peut-être en astronomie ?
Oh, par exemple, un truc tout bête, on peut y loger 1 million de fois la Terre. Et c'est une petite étoile, c'est une naine jaune. Donc, par rapport à d'autres étoiles, le Soleil lui-même est pratiquement un grain de poussière. Notamment par rapport à ces Stephenson 125, c'est ça ?
Voilà.
Ouais. Donc ça fait partie des choses un peu démentes, ou de savoir que le Soleil perd 4 millions de tonnes de masse par seconde. Donc ça permet aussi de se faire une idée de l'énormité. Et puis surtout, le truc le plus important, c'est que si le Soleil n'est pas là, nous non plus. Hein. C'est véritablement le cœur de la vie sur Terre. On a la chance d'être dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire qu'on n'est ni trop près comme Mercure, ni trop loin comme Mars, pour avoir la chance de pouvoir être vivant et d'avoir de l'eau à l'état liquide.
Et de la photosynthèse, qui est quand même la base.
Ah ben aussi, oui, mais ça va avec l'ensemble.
D'ailleurs, petite anecdote, on appelle cette zone la zone boucle d'or, puisque voilà, c'est ni trop salé, ni trop... voilà, le lit n'est ni trop grand ni trop petit, donc on n'a ni trop de température ni pas assez.
Et un des autres temps forts de la journée et de la soirée, c'est que l'après-midi et le soir, on va proposer, on a un espace dans lequel on va diffuser un quiz, un vidéo, et on va poser des questions au public pour tester leur connaissance sur déjà le système solaire en l'occurrence, et peut-être parfois leur faire découvrir justement des faits un peu étonnants autour de ce système, des planètes et de l'étoile qu'il constitue.
Avec à la clé des ouvrages à gagner, ça peut donner envie de venir.
Ah ben c'est complètement l'idée justement. Les trois meilleurs de chaque quiz repartiront avec des livres.
La projection là, qu'on a annoncée, elle donnera place ensuite à un débat, donc en votre compagnie, mais aussi en compagnie d'astrophysiciens, paléoclimatologues. Au menu également des séances de planétarium, toujours au Diapason, sur le campus de l'Université de Rennes. Il y aura des séances spéciales enfants, d'autres pour le grand public, donc entre 10h30 et 16h pour les enfants, et à partir de 16h30 et jusqu'à 23h pour le reste du public. C'est en fait un planétarium itinérant. On explique à quoi ça ressemble ?
C'est une espèce d'igloo gonflable dans lequel on rentre pour se retrouver en fait sous un dôme sur lequel sont projetées des animations et des images autour du système solaire. Ça permet véritablement de se promener dans l'espace avec une très très grande qualité d'image et pratiquement l'impression d'être au cinéma.
Et évidemment, à Rennes, on a le planétarium de l'espace des sciences qui est très bien identifié, de très bonne qualité, etc. On peut être sur le même type de qualité aujourd'hui avec un planétarium itinérant.
Oui, absolument.
Pour tout ça, il faut penser à réserver, puisque souvent, ça affiche complet au début de la semaine qui arrive juste avant l'événement. Ouais. Vous êtes surpris par ce succès
Surpris, oui et non. Oui, parce que c'est toujours... C'est toujours une aventure, notamment quand on a démarré l'année dernière, on sait pas trop comment ça va être pris. Non, parce qu'il y a quand même, et ça c'est une note d'espoir, une véritable appétence des gens pour le spatial, pour tout ce qui est céleste. Ça s'est vu notamment au moment du déconfinement sur le Covid, où il y a eu une explosion des ventes de télescopes qui a été très sensible, puisqu'elle a amené une énorme augmentation des prix dans notre domaine. Mais on a vu surtout sur les réseaux sociaux arriver des tas de gens qui étaient en demande de renseignements pour faire fonctionner le télescope, la monture, enfin bon, c'est moins évident que ça n'en a l'air. Donc, depuis, en fait, je dirais Thomas Pesquet, on a bien senti que sa médiatisation, parfois surmédiatisation en tout cas, mais a permis au grand public de se réintéresser à ça. Et puis, il y a eu cette période de Covid où finalement les gens ont eu le temps d'aller regarder en l'air. Et donc, ça nous surprend plus trop en soi, mais ça veut dire qu'il faut aussi être au niveau des attentes que peuvent générer ce genre de soirée. Mais globalement, non, c'est pas une inquiétude.
Je dirais aussi que c'est une occasion d'attirer les gens pour découvrir ce que sont les sciences en général. Donc avec un sujet qui plaît, on peut montrer il y a de la recherche, c'est lié à des personnes comme vous et moi qui travaillent dans les laboratoires et qui, je dirais vaille que vaille, font en sorte d'augmenter les connaissances, entre autres sur l'astronomie, mais dans tous les autres domaines connus.
Et c'est vrai, justement, ce que dit Erwan est très juste. Nous, au niveau d'Astroflit, on sert de porte d'entrée entre le grand public et les gens comme Erwan ou Ludovic qui sera à la soirée, qui sont eux, pour le coup, on considère qu'il y a une grande différence entre s'intéresser à l'espace et être scientifique. C'est pas du tout évident. Leur discours à eux est bien plus complet, profond que ne peut l'être le nôtre. Mais le nôtre est beaucoup plus accessible d'emblée. Mais il ne doit pas exister juste pour exister. C'est très bien. Mais qu'il serve de passerelle pour qu'on mette en avant le travail des scientifiques, c'est très important, surtout aujourd'hui, où ce travail-là n'est pas évident. Et c'est aussi, peut-être, de temps en temps, en tout cas on l'a vu, une façon de susciter des vocations, donner envie à des jeunes d'aller vers cette filière scientifique.
Et alors, les deux passionnés que vous êtes, ce sera ma dernière question, comment est-ce qu'ils perçoivent, alors certes, il y a une fascination plutôt dans le domaine de la curiosité intellectuelle, en même temps, un mouvement d'appropriation de cet espace, notamment par un secteur industriel, mais qui parfois est lié au milieu de la recherche aussi. On pense évidemment aux 11 000 satellites en orbite, à des personnages comme Elon Musk ou Jeff Bezos, qui partent vraiment dans des opérations de colonisation de l'espace. Comment est-ce que vous percevez ça ?
Alors déjà, on peut dire qu'en général, les programmes, ces programmes d'exploration spatiale ont assez peu d'intérêt scientifique par rapport à tous les programmes qu'on connaît. En ce moment, vous avez sans doute entendu parler du télescope James Webb. Quasiment à chaque observation, il révolutionne les connaissances liées à l'espace. Mm. Ce que ne fait pas les satellites de...
d'Elon Musk.
D'Elon Musk, voilà, merci. Qui, au contraire, sont problématiques, qui réfléchissent beaucoup la lumière et posent de gros problèmes aux observatoires, même scientifiques, qui ont des observations dégradées à cause de ces systèmes commerciaux.
Avant de commencer l'échange, David Carra, vous me confiez que vous n'étiez finalement pas très surpris, que c'était assez révélateur de la nature de l'être humain, à ne pas pouvoir juste être dans l'observation, la compréhension, mais être dans une forme
d'appropriation. De colonisation, le mot coloniser est fort et il a un sens historique, hein, déjà sur Terre, je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas dans l'espace. Vous parliez tout à l'heure de ma vie précédente, ce qui est amusant, c'est qu'avant de quitter la littérature pour ne plus m'intéresser qu'à l'astronomie et particulièrement à l'astrophoto, je travaillais sur un roman basé sur un thriller basé sur la privatisation de l'espace. Et c'est en faisant les recherches sur ce domaine-là que j'ai rattrapé un peu de mon retard en astronomie, parce que je m'y intéressais beaucoup enfant et puis j'avais laissé tomber pendant une trentaine d'années. Et que je me suis dit, mais finalement j'ai peut-être mieux à faire que de raconter une histoire de crime, de meurtre autour de ça. Et ce que j'en vois et ce que j'ai vu, c'est que globalement il y a une vision à court terme, il y a beaucoup de communication autour de ça. Quand on parle de coloniser Mars, c'est n'importe quoi, enfin je veux dire, c'est une imbécilité absolue. La course aux égos entre des milliardaires à coups de satellites dans l'espace pose effectivement d'énormes problèmes aux scientifiques, il pose des problèmes aussi à nous les amateurs, parce que des trains de Starlink qui réfléchissent la lumière, on les voit passer dans le ciel et on les voit très bien depuis Rennes, hein, je vous rassure. Et que d'une manière générale, il y a des Chinois qui voulaient créer une deuxième Lune, il y en a d'autres qui voulaient projeter de la pub sur la Lune. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est embêtant pour nous, mais c'est quand même très interrogant sur notre incapacité à nous fondre dans l'espace dans lequel on vit. Et on devrait quand même commencer à réaliser, notamment avec le dérèglement climatique, qu'à force de faire n'importe quoi, il y a un moment, la nature, elle va nous faire comprendre précisément pourquoi il ne fallait pas le faire.
Elle a un peu commencé à le faire.
Elle a commencé à le faire, mais c'est rien. Alors l'avantage de l'astronomie, c'est que quand on observe les autres planètes ou quand on observe des nébuleuses ou des galaxies ailleurs, on peut voir le pendant, l'avant et l'après de notre histoire. On a pu observer des planètes qui ont eu des atmosphères et qui n'en ont plus, qui ont été vivables et qui ne le sont plus. Si on regarde une planète comme Vénus, par exemple, Vénus a vraisemblablement, toutes les études le laissent à penser, abrité toutes les conditions pour l'émergence de la vie. Et aujourd'hui, c'est un enfer. C'est-à-dire qu'il pleut de l'acide, il y a une pression atmosphérique qui est insupportable, un effet de serre qui est fou avec des températures qui atteignent les 600 degrés. Si on a envie de suivre cette voie-là, pourquoi pas, hein. Mais globalement, autant je pourrais comprendre qu'il y a 200 ans qu'on fasse n'importe quoi parce qu'on n'en avait pas forcément la connaissance, autant aujourd'hui, on l'a, cette connaissance. Donc j'ai un peu de mal à comprendre quelle excuse sera la nôtre.
Pour rebondir là-dessus, ces nouveaux milliardaires ont aussi un état d'esprit où la technologie peut tout régler. Donc on peut faire ce qu'on veut sur Terre, la géo-ingénierie, telle que c'est appelé, pourra résoudre. Et ça pose un gros problème, puisque déjà on a du mal à comprendre comment toute la planète fonctionne, que ce soit le vivant ou les ailes de l'atmosphère, etc., etc. Et se dire, bon, finalement on peut continuer à faire des dégâts, on arrivera à s'en sortir, ça me paraît un peu dangereux.
Mmh. Je vous représente, David Carra et Erwan Carvo. Vous êtes respectivement astrophotographe et physicien. On vous retrouvera à la soirée Science et Astronomie, Les Yeux au Ciel, qui se déroulera mercredi prochain, le 25 octobre, au Diapason, sur le campus de l'Université de Rennes. C'est un événement gratuit, mais il faut penser à s'inscrire. Pour plus d'infos et pour réserver sa place, ça se passe sur le site internet diapason.univ-rennes.fr et ça se passe de 19h à minuit. Merci beaucoup.
Merci. Merci.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools
Life on Mars, évidemment, par David Bowie sur Canal B. C'est la recommandation musicale de David Carra qui était en studio juste avant ça avec Erwan Carvou. Et il a choisi, David Carra, un morceau de 1971 qu'on retrouve sur l'album Hunky Dory, le quatrième des 26 albums studio de David Bowie, musicien britannique mythique. Vous êtes en train d'écouter L'Arène, l'émission d'info locale de Canal B, soit sur le 94.0, peut-être aussi sur notre site internet canalb.fr, où vous pourrez retrouver le podcast de cette émission juste après sa diffusion, pour info. On continue cette émission d'info locale avec maintenant un reportage. Un reportage réalisé dans les locaux de Comme un établi, atelier coopératif installé au nord de Rennes, pas très loin de Grand Quartier. Et c'est là que vient d'ouvrir un atelier de textile pas comme les autres. Derrière les machines, on retrouve des couturiers et des couturières exilés qui sont accompagnés, au-delà de ce travail, sur un volet social, linguistique et administratif. Un projet porté par l'association Espéro Bretagne, la nouvelle antenne régionale d'une association parisienne qui fonctionne ici à Rennes avec deux salariés et deux volontaires en service civique. Allez, reportage.
Donc moi je suis Maëlle Pizigot et je suis responsable de l'atelier couture donc à Espéro.
On commence par redire qu'Espéro au départ est plutôt basé en région parisienne.
Tout à fait.
Que sur la couture ou sur d'autres volets d'insertion ?
Il y a d'autres volets, donc ça va être la permaculture et l'apiculture.
Vous sauriez me dire Quelles équipes ça représente pour le ski en région parisienne?
Alors, je sais qu'il y a deux ateliers couture, donc de 10 personnes chacun. Et après, c'est pas du tout... Enfin, là, c'est chantier d'insertion et nous, c'est entreprise d'insertion. Ça va pas être le même modèle en termes d'économie, tout ça.
De quelle façon est-ce qu'Espero est arrivé en Bretagne?
Alors, en fait, en Bretagne, il y a beaucoup d'entreprises de luxe dans la couture. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vont partir à la retraite et les entreprises cherchent à recruter énormément. Donc, on a décidé de cibler par rapport à ça et donc d'embaucher des personnes déjà expérimentées dans la couture et dont le projet est la couture.
On dit où on se trouve, à quoi ressemblent les lieux où vous êtes installés?
Alors, on est installé à Comme un établi à Saint-Grégoire. Et donc, c'est un lieu pour l'artisanat, en fait, de partage. Et nous, on est dans un atelier couture avec 10 machines à coudre, des surfileuses, des presses. On est plutôt bien équipés.
Un atelier qui est vitré, avec plein de fenêtres qui donnent sur le reste de Comme un établi.
C'est ça, c'est plutôt lumineux.
Ouais, avec plein de guirlandes en tissu pour donner un peu l'idée du décor. Et donc là, on se retrouve au moment de la pause déjeuner ce jeudi 19 octobre. À quel moment est-ce qu'on se retrouve dans le projet? C'est le moment du lancement?
C'est le moment du lancement, tout à fait. Et en fait, nous avons... là, on est sur la troisième semaine d'ouverture. Et tout le monde est arrivé en même temps. Moi, je suis arrivée en même temps que les salariés. Donc, on apprend à se découvrir, à travailler ensemble. Là, pour l'instant, on est sur appréhender les machines, voir un peu le niveau de tout le monde, qui est excellent. Et par la suite, ce sera donc de la sous-traitance, en fait, d'entreprises locales, si possible. Et voilà, c'est le projet. Et de créer peut-être une marque Espero dans le futur.
Qui sont les couturiers et couturières, surtout des femmes et donc des personnes exilées?
Oui, tout à fait, c'est ça. Là, il s'avère qu'effectivement, on a 6 femmes et un homme. Donc, pour les nationalités, on travaille avec des Ukrainiennes, des Afghanes, Guinéens, Guinéennes. Et donc, le projet professionnel, c'est la couture, hein, tout simplement. Elles étaient couturières dans leur pays. Il était aussi couturier dans son pays. Et donc, le projet, c'est de les insérer dans une entreprise de couture ou bien qu'ils soient auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses.
Pour le moment, avec combien d'entreprises, je ne sais pas si vous pouvez les nommer, mais avec combien d'entreprises vous êtes en lien donc sur des opérations de sous-traitance?
Là, on est au tout début. On commence à avoir quelques contacts, peut-être 5, 6 pour le moment. On est en train d'établir des projets par rapport à ces clients-là.
Je vois pôle textile et maroquinerie, ça veut dire qu'il y aura des choses à... Non, c'est que textile.
C'est que textile. En fait, comme c'est un établissement partagé, il y a aussi des maroquinières qui vont installer leurs machines autour de nous. Et donc, si un jour on a besoin, peut-être on pourra partager nos compétences à ce sujet-là. Mais en tout cas, on est équipé en machines grâce à Comme un établi, ouais.
Ce qui est particulier, c'est qu'en plus donc du travail autour du textile, il y a le souhait d'un accompagnement auprès de ces couturiers et couturières qui vous inscrivent donc clairement dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Comment il se matérialise cet accompagnement ?
Eh bien, en fait, elles sont accompagnées. Elles ont un contrat de 31 heures. Dans ces 31 heures, y compris des cours de français. Et un accompagnement avec une conseillère en insertion professionnelle, justement pour lever un petit peu les freins qu'elles peuvent avoir au quotidien et vraiment les amener dans l'autonomie pour intégrer une entreprise ensuite ou bien monter leur propre entreprise.
Il y a le volet linguistique, il y a aussi le volet pas mal administratif.
Oui,
enfin,
voilà.
Les freins, ils ressemblent à quoi? C'est sur... Alors, j'imagine qu'ils ont leur titre de séjour tous, mais ça peut être sur des histoires de mutuelles, d'assurance.
Oui, voilà, c'est ça, de logement, c'est tout à fait ça.
J'ai observé sur la communication, ils et elles sont pas tous encore au même niveau de langue. Ça amène à voir différents modes de communication. Ça passe par le téléphone, avec certains, certaines.
Pour la traduction, oui, c'est... Oui. On évite quand même d'utiliser le téléphone pour parler le plus possible français, mais c'est pas toujours simple, donc on va utiliser nos mains pour échanger ou bien la traduction, voilà, par le téléphone.
Et la langue des signes française avec un des couturiers?
Oui, voilà, c'est ça.
Ça complique les choses ou pas dans un quotidien d'atelier?
Non, pas du tout. Pas du tout, ça se passe très bien et en plus, la couture, c'est très visuel, donc non, il n'y a pas de problème.
Comment est-ce que le projet il est amené à évoluer? Est-ce que si ça fonctionne, là vous êtes aussi dans le moment où vous cherchez des partenaires, des entreprises, mais est-ce que les équipes pourraient s'étoffer? Est-ce que ça pourrait devenir plus important?
On souhaite, oui, bien sûr. Le but, c'est dans 2 ans d'être à 10 couturiers et couturières dans cet atelier.
Et avec votre marque?
Oui, et la sous-traitance aussi. Hein. On est en train de travailler dessus, sur l'image de marque, sur ce qu'on peut proposer, etc. Donc c'est au tout début.
Je crois que vous avez fait un effort un peu de réemploi sur les machines qui sont utilisées.
On a récupéré effectivement des machines, mais elles ne sont pas aux normes. Donc on a dû acheter des machines parce que tout le monde arrivait en fait le lundi, début octobre. Et donc il y a
galère,
eu un investissement voilà, dans toutes les machines à coudre.
Et sur les tissus vous...
Les tissus, il y en a certains qui sont récupérés parce qu'on aimerait beaucoup faire de l'upcycling. Et aussi dans le futur, on va proposer des ateliers pour des particuliers pour venir construire leurs bananes, leurs bobs, enfin monter un projet de couture, être accompagné par rapport à ça. On a aussi en parallèle des bénévoles. On met en valeur leurs compétences de couture parce qu'on ne peut pas les embaucher. Et du coup, ils vont faire un défilé qui sera le 18 novembre à Comment Établi.
J'allais demander s'il y avait des temps forts à venir, donc un défilé au mois de novembre.
Voilà, c'est ça, avec des personnes pas embauchées à Espéro, mais plutôt en bénévole, et on va mettre leurs compétences en valeur en créant cet événement. Et ensuite, il y a le marché comme un établi, qui sera le 17-18 décembre.
Petit rectificatif, le marché de Noël évoqué, il a lieu les 16 et 17 décembre.
Et là, on présentera un petit peu des produits qu'on a créés justement au début de l'ouverture. On est sur la création en ce moment de bob, de bananes, donc tout ça dans des tissus upcyclés. On est sur de l'emballage bouteille en tissu pour éviter le papier, des headbands recyclés dans des pulls, enfin il y a plusieurs petites choses. Il y a la radio qui est là pour ça.
Non,
radio.
Bonjour, je m'appelle Natalia. Je suis ukrainienne. Je suis arrivée en France le mars 2022 à cause de la guerre. Maintenant, je travaille au Espéro comme couturier. Avant, quand j'habitais en Ukraine, les coutures, c'était mon loisir. Et maintenant, je voudrais continuer comme travail comme couturier en France. Et c'est pour ça que je travaille ici maintenant.
Bonjour, moi c'est Marietou, de Marietou. Et je suis d'origine guinéenne. Et je suis arrivée en France en août 2013.
Il y a 10 ans.
Il y a 10 ans. Donc j'ai obtenu mon titre de séjour il n'y a pas longtemps. Donc du coup, je suis allée à la recherche d'un boulot et je suis tombée sur Espéro. Et là, je commence avec eux mon nouveau travail en France.
Vous aviez déjà une expérience dans la couture ?
Oui, oui. Moi, j'ai toujours été couturière, mais spécialisée sur le mode des enfants, des petites filles.
Est-ce que ça a été difficile avant de trouver un travail ? Vous cherchiez depuis longtemps ? Ben, il fallait d'abord le titre de séjour.
Oui, oui, il fallait être régularisé d'abord pour pouvoir travailler. Donc après, quand j'ai eu mon titre de séjour, je me demandais où trouver là où je peux exercer mon métier de couturière, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est là que je suis allée au CCAS de Villejean et je demandais si on pouvait donner des cours de couture au niveau du centre social. Et là, la secrétaire m'a dit qu'il y avait Espéro qui devait commencer à Rennes et qu'ils avaient une réunion prévue. Donc j'ai pris les coordonnées et tout et je suis venue assister à la réunion. J'ai expliqué mes compétences et tout. Et c'est à partir de là que tout a commencé.
Comment ça se passe depuis que vous avez commencé ?
C'est très magnifique. J'aime bien beaucoup travailler ici. C'est très vite. Les semaines, c'est fini très vite parce que nous avons fait chaque jour quelque chose de nouveau. Apprendre les différentes machines à coudre. Parce que je travaille toujours avec les machines à coudre simples. Ici, c'est toutes les machines nouvelles, toutes les machines professionnelles. Et nous avons fait toujours nouvelles. Quelque chose de vêtements.
Aujourd'hui, vous travaillez sur quoi là aujourd'hui?
Ah, c'est un bob, c'est un chapeau, mais c'est très joli, c'est très joli. J'aime bien ça. Je voudrais acheter ça. Oui.
Et vous, Marietou?
Oui, ça va ici. Tout se passe bien. On s'entend bien. L'équipe est magnifique. notre chef d'atelier, elle est très sympa. Donc, on travaille dans l'ambiance, donc il n'y a pas de stress. On est vraiment bien relax dans notre travail. Donc, du coup, ça nous motive de revenir. On est pressé de revenir le lendemain travailler.
Vous aussi, vous êtes sur un bob en ce moment-là?
Non, moi, je suis sur les emballages cadeaux de Noël. On prépare des petits sacs pour les champagnes, des bouteilles de vin. On fait des jolies choses et j'invite tout le monde à venir pour le marché de Noël à Espéro.
Comment vous communiquez entre vous? Tout le monde ne parle pas encore forcément français, c'est aussi un apprentissage. Vous arrivez quand même à échanger?
Elle se débrouille toute en français un peu. Oui, donc Natalia est la plus
avancée,
en langue française. Donc, mais parfois quand on est coincé, on l'explique et elle traduit. Donc okay. Ça passe bien quoi. Se passe bien.
Peut-être sur l'accompagnement, on n'en a pas parlé, mais Espero vous accompagne aussi peut-être sur l'apprentissage de la langue, le côté social, etc. Vous, ça vous a aidé ça ou...
Oui, ça, c'est en train de m'aider parce qu'il faut tout remettre en place. Et vu que j'étais pas régularisée et maintenant, il faut tout remettre en place, la cave. La sécurité sociale, tout quoi. Et quand j'ai un courrier très important, j'amène à Espero et on m'explique et on m'aide à le faire.
Ma dernière question, c'est de vous demander ce que ça change dans votre vie d'avoir ce travail. Est-ce que ça a eu des conséquences sur peut-être votre famille ou sur votre logement, sur votre qualité de vie, sur votre morale? Ça change quoi?
Oui, bien sûr, parce que c'était mon premier travail en France. Avant, je juste les prendre les langues, parce que tu as besoin de langues pour la vie, oui, pour les discuter, pour les intégrer. Et oui, c'est vraiment changé. Tu as trouvé les amis, tu as trouvé le travail comme tu bien aimais. Et tu peux faire professionnel, c'est à chaque semaine, chaque mois, tu peux grandir cette profession. C'est très bon.
Et moi, ça m'apporte beaucoup dans ma vie, parce que j'ai eu à galérer pendant 10 ans, sans travail, sans argent, rien. Et je ne pouvais rien faire vu que j'avais pas... J'ai mes papiers. Donc maintenant, ça, en fait, franchement, ça change ma vie, quoi. Parce que là, je peux avoir chez moi mon appartement et puis m'épanouir dans mes différents trucs et pouvoir m'occuper mieux de mon fils. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je suis très heureuse avec ça.
Oh, magnifique! J'adore, c'est très bien. Bravo.
Your hand on my back, it's gentle as can.
Williams avec le morceau The Flowers, une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B, et titre que vous pouvez retrouver sur un album, Johnny, qui est sorti le 13 octobre chez Anti. C'est le 6e disque studio de Johnny Pierce, le chanteur de The Drums, groupe d'indie pop US originaire de Brooklyn et lancé en 2008. L'arène, l'émission d'info locale de Canal B se poursuit. Dans un instant, la recommandation du jour, j'en profite là au détour de cette phrase pour vous dire que depuis le mois de septembre, je n'annonce plus le programme de cette émission sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez vous abonner à la newsletter Le Courrier de l'Arène si vous souhaitez être informé chaque vendredi de ce dont on parle dans cette émission. Comme promis, la recommandation du jour pour terminer cette émission, c'est un événement de l'association La Cloche Bretagne. Ça s'appelle la Journée Impopulaire et ça se passe vendredi 20 octobre à l'Hôtel Pasteur à Rennes. La Cloche, c'est cette asso que vous entendez de temps en temps dans l'émission d'info qui a construit tout un réseau de commerçants d'accord pour filer un coup de pouce aux personnes en situation de précarité. Association qui propose aussi des ateliers chorale, cuisine, théâtre pour donc ce public de personnes en situation de précarité, mais plus globalement pour les Rennais dans un objectif de mixité. Vendredi de 10h30 à 17h, la Cloche a préparé plusieurs animations pour un temps festif autour de l'alimentation et de la précarité dans un contexte social où se nourrir est devenu une lutte pour de plus en plus de personnes. Alors forum des associations, fresque de la précarité alimentaire, discussion sur le bien manger, projection dans le cadre du festival alimentaire, l'ensemble du programme est à retrouver en ligne sur le site lacloche.org et puis sur leur réseaux sociaux. Un rendez-vous qui est ouvert à tous, qu'on soit précaire, omnivore ou végétarien, avec ou sans domicile, le tout en compagnie d'une quinzaine de structures, par exemple les associations Au Goût du Jour, Cœur Résistant et puis bien d'autres. C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour pourquoi pas s'abonner à la newsletter Le Courrier de l'Arène, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.